Chapitre 16. J'ai ton patron en ligne, annonça Trépla. Il passe par le second Osaka dans ce vaisseau là-haut, celui qu'on a sur le dos. Les baptisés le Aniwa. Je sais, dit Kaise d'une voix absente, je l'ai vu. Un losange de lumière blanche vint se cliquer en place devant lui, masquant la glace tessier à chepoule. L'incrustation lui révélait le visage calme, parfaitement net et totalement fou d'Armitage. Les yeux vides comme des boutons de nacre. Armitage cligna les yeux, les écarquilla. « Je parie que Muediver s'est également chargé de vos Turing, hein ?»« Comme il s'est occupé des miens, » dit Kaise. Armitage le fixa. Kaise résista au désir soudain de détourner le regard, de baisser les yeux. « Vous vous sentez bien, Armitage ?» Kaise. Et durant un instant, quelque chose parut bouger derrière l'éclat bleu du regard. « Vous avez vu Muediver, pas vrai ?» Dans la matrice. Kaise acquiesça. La caméra en façade de son Osaka, à bord du Marcus Garvey, allait relayer le geste au moniteur du Aniwa. Il imaginait Maël Koum en train d'écouter les monologues de sa moitié en transe, dans son incapacité à percevoir les voix du Construct ou d'Armitage. Kaise et les yeux s'agrandirent. Armitage s'était penché sur son ordinateur. Qu'était-il lorsque vous l'avez vu ? Un construct de SimSteam à haute résolution. Mais sous les traits de qui ? Du finnois, la dernière fois. Avant ça, du Mac que je... Pas du général Girling ? Le général qui ? Le losange devint blanc. Rembobine ça et demande au Osaka d'y jeter un coup d'œil, dit-il au construct. Il cliqua. La perspective l'abasourdit. Molly était accroupie au milieu de poutrelles en acier, 20 mètres au-dessus d'un vaste sol de béton lissé, maculé de taches. La salle était un hangar ou bien un atelier d'entretien. Il pouvait apercevoir 3 vaisseaux spatiaux, tous de taille plus réduite que le Garvey, et tous à différents stades de réparation. Des voix en japonais. Une silhouette en survêtement orange sortit d'une ouverture dans la coque d'un véhicule de construction bulbeux et s'immobilisa à proximité d'un des bras manipulateurs hydrauliques, étrangement anthropomorphe de l'engin. L'homme tapa quelque chose sur une console portable et se gratta les côtes. Un chariot robot rouge apparut, roulant sur ses pneus ballon gris. Kaise clignota la puce de Molly. « Eh, fit-elle, on attend le guide !» Elle se rassit par terre, bras et genoux de son costume de moderne, du même gris-bleu que la peinture des poutres. Elle avait mal à la jambe, une douleur vive et régulière à présent. « J'aurais dû retourner voir Menton, » marmonna-t-elle. Quelque chose sortit tranquillement de l'ombre en cliquetant, au niveau de son épaule gauche. Marqua une pause en balançant d'un côté à l'autre son corps sphérique, sur de hautes pattes d'araignée, tira une salve d'une micro-sonde de lumière laser diffuse et s'immobilisa. C'était un micro-robot Braun. Kaise avait naguère possédé le même modèle, gadget inutile qu'il avait obtenu dans un lot fourgué par un receleur de matériel électronique à Cleveland. L'appareil ressemblait à un faucheux couleur noire mat. À l'équateur de la sphère, une diode rouge se mit à pulser. Le corps n'était pas plus gros qu'une balle de baseball. « D'accord, fit Molly, je t'écoute. » Elle se leva, ménageant sa jambe gauche, et regarda le petit robot faire demi-tour, se frayant méthodiquement un chemin parmi les poutrelles pour réintégrer l'obscurité. L'homme en survêtement orange était en train de refermer le devant d'une combinaison spatiale blanche. Elle le regarda visser et sceller le casque, ramasser sa console, puis disparaître dans l'ouverture de la coque du vaisseau de construction. On entendit monter un sifflement de moteur, et l'engin disparut en douceur, descendant sur un disque de 10 mètres de diamètre, qui s'enfonça dans le sol sous l'éclat aveuglant des lampes à arc. Le robot rouge attendit patiemment à la lisière du trou laissé par le monte-charge. Puis Molly partit sur les traces du Braun, se frayant un passage dans une forêt d'entretoises en acier soudé. Le Braun faisait régulièrement clignoter sa diode comme un signe. « Comment ça va de ton côté, Kaise ? T'es retourné sur le Garvey avec Maelkoum ?
Bien entendu.
Et tu t'es branché là-dessus ? Tu sais que j'aime ça ?
C'est que j'ai toujours causé toute seule dans ma tête, chaque fois que j'étais dans une situation délicate.
À faire comme si j'avais un copain, quelqu'un qui me fiait, à qui pouvoir raconter tout ce que je pensais vraiment, ce que je ressentais, faire comme s'il me donnait alors son opinion. Et j'ai toujours marché comme ça. De t'avoir, ça me fait un peu pareil.
Cette scène avec Ashpool, elle se mordit la lèvre inférieure, contourna une poutre, gardant toujours le robot en vue.
Je m'attendais à quelque chose de peut-être un peu moins tordu, tu vois ?
Je veux dire, ces mecs sont tous complètement jetés.
Ici, comme s'ils se trimballaient tous avec des messages lumineux, griffonnés à l'intérieur du front, ou je ne sais quoi.
J'aime pas la tournure que ça prend, mais alors pas du tout. Je trouve que ça pue.
Le robot se hissait le long d'une échelle pratiquement invisible, formée de barreaux d'acier en U, qui donnait sur une étroite ouverture sombre.
Et tant que je suis d'humeur à faire des confessions, mon chou, je dois bien admettre que je n'ai jamais franchement espéré m'en sortir ce coup-ci.
Ça fait un bout de temps que je suis sur ce mauvais plan, et t'es bien la seule surprise agréable qui me soit arrivée depuis que j'ai signé avec Armitage.
Elle leva les yeux vers le cercle noir. La diode du robot clignota, grimpant toujours.
Non pas que tu sois une telle merveille.
Elle sourit, mais le sourire disparut trop vite, car dès qu'elle se mit à grimper, la douleur lancinante de sa jambe lui fit grincer des dents.
L'échelle continuait à travers un tube métallique, à peine assez large pour laisser passer ses épaules.
Elle grimpait dans la gravité qui baissait, grimpait vers l'axe en impesanteur.
L'heure pulsa sur son afficheur.
04, 23, 04.
La journée avait été longue.
La clarté de sa perception avait occulté l'effet de la bêta-phénylétylamine, mais Case pouvait encore ressentir la présence.
Il préférait la douleur dans la jambe de Molly.
Case, 000000,
je parie que c'est pour toi, dit-elle, en poursuivant mécaniquement son ascension.
Les zéros palpitaient à nouveau et bientôt un message bégaya au coin de sa vision périphérique, tronçonné par le circuit d'affichage.
Général Girling, A entraîné.
Corto en vue, point hurlant et vendu.
Son cul au Pentagone, emprise première, M d'hiver sur Armitage.
Est un construct,
2 Girling.
M d'hiver,
dit que mention G,
par A indique K,
il te craque, gaffe à ton cul, Dixie.
Eh bien, fit-elle, marquant une pause, en reportant tout son poids sur la jambe droite,
je suppose que t'as des problèmes, toi aussi.
Elle baissa les yeux. Apparut un vague cercle de lumière, pas plus large que le disque de laiton de la clé tube qui pendait entre ses seins. Elle leva les yeux.
Rien.
D'un coup de langue, elle enclencha l'amplificateur optique et le tube s'éleva dans une perspective infinie, avec le Braun qui progressait toujours sur les échelons.
Personne ne m'avait parlé de cette partie, observa-t-elle.
Case décrocha.
Maelkoum,
Mac, t'patron l'est devenu ben bizarre.
Le sionite portait un scaphandre Sagno de 20 ans, plus vieux que celui que Case avait loué à zone libre.
Il tenait le casque sous le bras et avait ramené ses nattes dans un filet de coton violet tissé au crochet.
La tension et la ganja avaient réduit ses yeux à deux minces fentes.
« L'arrête pas d'appeler ici pour lancer des ordres, Mac. C'est quoi que doit y avoir la guerre à Babylone ?»
Maelkoum hocha la tête.
« Aérol et moi, on cause.
Aérol cause avec Sion.
Les fondateurs, ils nous disent « Laissez tomber et barrez-vous. »
Il s'essuya la bouche d'un revers d'une grande paluche noire.
« Armitage ?»
Case grimaça lorsque le contre-coup de la bêta-phénéthylamine le chopa de plein fouet. Faute de matrice ou de simstim pour en masquer les effets.
« Le cerveau n'a pas de terminaison nerveuse, se dit-il. Il ne peut pas souffrir à ce point.
« Qu'est-ce que tu racontes, mec ? Il te donne des ordres, hein ?»«
Mac !» Armitage, il me dit de mettre le cap sur la Finlande. T'en rends compte ? Il me dit qu'il y aurait un espoir. Tu vois ça ?
Déboule sur mon écran avec sa chemise pleine de sang, Mac, un vrai chien enragé, causant de poings hurlants, de russes, et du sang des traites qu'on aura sur les mains. »
Il hocha de nouveau la tête, casque de tresses ondulant en impesanteur, lèvres pincées.
« Les fondateurs, ils disent que la voix du muet, c'est sûrement un faux prophète, et qu'Aréole et moi, on doit abandonner le Marcus Garvey et rentrer. »
Armitage, blessé, du sang,
peut pas dire, t'sais, mais plein de sang, ça oui, et raide cinglé en tout cas, Kez.
D'accord, dit Kez. Et moi alors dans tout ça?
Vous rentrez?
Bon.
Et moi, Malcolm?
Mac, dit Malcolm, viens avec moi.
Toi et moi, on rentre à Sion, avec Aréole sur le Babylon Rocker.
On laisse ce monsieur Armitage causer avec une cassette fantôme.
Entre fantômes, hein?
Kez regarda derrière lui, sa combinaison de location se balançait contre le hamac sur lequel il l'avait fixé, oscillant dans le courant d'air venu du vieil extracteur russe. Il ferma les yeux. Il vit les sachets de toxines se dissoudre dans ses artères, vit Molly se hisser le long d'une interminable rangée d'échelons d'acier. Il rouvrit les yeux.
« Je sais pas, mec, » dit-il enfin, un drôle de goût dans la bouche.
Il baissa le regard sur son bureau, sur ses mains.
« Je sais pas. »
Il releva les yeux. Le visage noir était calme à présent, attentif. Malcolm avait le menton dissimulé par l'espèce bride du casque de son vieux scaphandre bleu.
« Elle est dedans, » dit-il. « Molly est dedans. »«
Lumiérande, ça s'appelle. »« S'il existe un Babylone, mec, c'est bien là qu'elle se trouve. »« On la laisse tomber, pas question qu'elle s'en sorte. »« Rasoir, dansant ou pas. »
Malcolm acquiesça.
Le filet de natte rebondissant derrière lui comme un ballon captif de coton en crochet.
« C'est ta nana, Kez ?»«
C'est pas. »« La nana de personne, peut-être. » Il haussa les épaules. Il retrouva sa colère aussi concrète qu'un éclat de roche en fusion sous ses côtes.
« Et puis, qu'ils aillent se faire foutre, tous. Armitage, Medivher, et toi avec, moi je reste. »
Le sourire de Malcolm s'épanouit sur son visage comme une éclaircie dans le ciel.
« Malcolm est un dur, Kez. »
Et le Garvey, c'est le bateau de Malcolm.
Sa main gantée claqua un panneau et la basse entêtante et lourde du dub de Sion se mit à pulser dans les haut-parleurs du remorqueur.
Malcolm se barre pas, non. Je vais causer avec Aréole, sûr qu'il verra ça du même œil.
Kez le regarda ahuri.
Les mecs, je vous comprends vraiment pas.
Je te comprends pas plus, Mac, dit le sionite, hochant la tête en mesure.
Mais faut qu'on agisse selon l'amour de Jah, tous autant que nous sommes.
Kez se brancha et bascula dans la matrice.
Reçu mon message?
Ouais.
Il vit que le programme chinois avait grandi. De délicates arches aux fluctuants reflets polychromes approchaient de la glace TA.
Eh bien, ça commence à devenir coton, déclara le Tréplat. Ton patron a effacé les banques sur l'autre Zaka et il a bien failli embarquer les nôtres avec.
« Mais ton pote Medivher a quand même eu le temps de m'éclairer sur un truc avant de s'éteindre. »
La raison pour laquelle Lumirante ne grouille pas littéralement de Tessier et Ashpool, c'est qu'ils sont la plupart du temps en cryo.
Il y a un cabinet d'avocats à Londres, rien que pour suivre en permanence l'imbroglio de leur capacité juridique.
Faut qu'ils sachent qui est réveillé et à quel moment précis.
Armitage relayait les transmissions de Londres à Lumirante par le Osaka sur le yacht. Incidemment, ils sont au courant de la mort du vieux.
Qui est au courant?
Le cabinet d'avocats et la TA. Il avait un télédétecteur implanté dans le sternum.
Non pas que la fléchette de Tadana ait pu donner beaucoup de fil à retordre à une équipe de résurrection.
Une toxine extraite de crustacés. Mais le seul TA éveillé à Lumirante en ce moment est Lady Trojan, Marie-France. Il y a un mâle, 2 ans plus vieux en Australie pour affaire.
Tu me poses la question?
Je te parierais que Medivher aura trouvé moyen que toute cette histoire requiert l'attention personnelle de ce 8 Jean.
Mais il est sur le chemin du retour, ou peu s'en faut.
Les avocats de Londres indiquent que son heure prévue d'arriver à Lumirante est 09:00 ce soir.
Nous avons inséré le virus Quang à 02:32:03.
Il est 04:45:20. La meilleure estimation pour la pénétration du Kuang en mémoire centrale de TA est 08-30-00, à un poil près de part et d'autre. Je suppose que Meudiver a prévu quelque chose avec ses trois djennes, ou sinon, c'est qu'elle est aussi cinglée que l'était son vieux. Mais en attendant, le petit gars qui monte de Melbourne, lui, il saura faire le point. Les systèmes de sécurité de Lumiérante essayent toujours de basculer en alerte maxi, mais Meudiver les bloque. Me demande pas comment. Malgré tout, il est quand même pas capable d'outrepasser le programme d'entrée de base pour faire pénétrer Molly. Armitage disposait d'un enregistrement de toute la procédure sur son Osaka. Riviera a dû persuader trois djennes de se lancer là-dedans. Elle a eu des années pour se bidouiller des entrées et des sorties. M'a tout l'air que l'un des principaux problèmes de Théa, c'est justement que tous les gros bonnets de la famille ont saturé les banques avec tout un tas de brouillages privés et d'exceptions. Un peu comme si ton système immunitaire partait en nique-douille de tous les côtés, mûr pour le virus. Bref, ça s'annonce plutôt bien pour nous, une fois qu'on aura franchi cette glace. D'accord, mais Meudiver disait qu'arme, un losange blanc vient s'incruster dans l'image, rempli par un gros plan sur des yeux bleus fous. Kez ne put que regarder, ébahi. Le colonel William Corto, des forces spéciales, brigade d'intervention, code point hurlant, avait trouvé moyen de revenir. L'image était pâle, sautillante, floue. Corto utilisait la console de navigation du Haniwa pour correspondre avec le Osaka installé à bord du Marcus Garvey. Kez, il me faut un état des dégâts sur le Omaha Thunder. Enfin, mon colonel, reprenez-vous, mon garçon. Rappelez-vous votre instruction. Mais où étais-tu passé, mec ? Demanda-t-il en silence, aux yeux affolés. Meudiver avait élaboré un objet dénommé Armitage, au sein d'une forteresse catatonique qui s'appelait Corto. Il avait persuadé Corto qu'Armitage était le personnage réel, et Armitage avait marché, parlé, bâti des plans, troqué des données contre des capitaux, affronté Meudiver dans cette chambre du Hilton de Chiba. Et voilà qu'à présent Armitage avait disparu, soufflé par les vents de la folie de Corto. Mais où Corto était-il donc passé durant toutes ces années ? Dégringolant, brûlé aveugle du haut du ciel de Sibérie. Kez, ce sera difficile pour vous de l'accepter, je le sais. Vous êtes un officier. L'instruction, je comprends ça. Mais Kez, Dieu m'en est témoin. Nous avons été trahis. Des larmes jaillirent des yeux bleus. Mon colonel, qui nous a trahis ? Le général Girling, Kez. Vous le connaissez peut-être par son nom de code. Enfin, vous devez savoir de qui je parle. Ouais, fit Kez, tandis que les larmes coulaient toujours. Je suppose que oui. Puis il ajouta sur une impulsion. Mais mon colonel, que faudrait-il qu'on fasse au juste ? Maintenant, je veux dire. Notre devoir en l'espèce, Kez, réside dans la fuite, l'esquive, l'évasion. Nous pouvons avoir atteint la frontière finlandaise dès demain soir. Vol en rase-motte en manuel. Au ras des pâquerettes, garçon. Mais ça ne sera qu'un début. Les yeux bleus se plissèrent au-dessus des pommettes bronzées, luisantes de larmes. Rien qu'un début. La trahison vient d'en haut. D'en haut. Il s'éloigna de l'objectif, révélant des taches sombres sur sa chemise de serge déchirée. Si le visage d'Armitage avait été pareil à un masque, impassible, les traits de Corto arboraient un véritable masque schizoïde. Les stigmates de la maladie profondément gravés par des contractions musculaires involontaires qui distordaient le coûteux travail de la chirurgie esthétique. « Mon colonel, j'entends bien, mon vieux. Bon, écoutez-moi, mon colonel, d'accord ? Je veux que vous ouvriez la... Ah, merde, commencez déjà à 10. »« La baie d'accès médian, » souffla le trèplat. « Que vous ouvriez la baie d'accès médian, vous dites simplement à votre console centrale de l'ouvrir, dac ? Nous serons avec vous là-haut dans un instant, mon colonel. On pourra alors discuter des moyens de se tirer d'ici. » Le losange disparut. « Mon gars, ce coup-ci, je crois bien que tu m'as largué, » lança le trèplat. « Les toxines, » dit Kez, « les putains de toxines !» Et il décrocha. « Du poison ?» Malcolm regarda par-dessus l'épaule bleue et raflée de son vieux scaphandre Sagno, tandis que Kez gigotait pour s'extraire du filet antigé. « Et ôte-moi donc ce putain de truc !» Il tira sur le cathéter texan. « Comme un poison lent, et l'autre connard là-haut qui sait comment le contrer, voilà maintenant qu'il est devenu complètement marteau !» Il tripatouilla le devant du Sagno rouge, incapable de se rappeler comment on faisait pour l'ouvrir. « Ton patron, il t'a empoisonné ?» Malcolm se gratta la joue. « J'ai une trousse médicale, t'sais. Malcolm, bon Dieu, aide-moi plutôt à passer cette putain de combinaison. » D'une détente du pied, le sionite quitta le module de pilotage rose. « À l'aise, Blaise. Te mesure deux fois, te coupe qu'une, comme disait le sage. Allez, on va y monter. » Il y avait de l'air dans le passage strié qui menait du sas arrière du Marcus Garvey à la baie d'accès médian du yacht baptisé Aniwa. Mais ils gardèrent leurs scaphandres fermés. Malcolm franchit le passage avec une grâce de ballerine, ne s'arrêtant que pour porter secours à Kez, qui était parti dans une maladroite culbute, sitôt qu'il avait mis le pied hors du Garvey. Les flancs de plastique blanc du tube filtraient la lumière crue du soleil. Il n'y avait pas d'ombre. Le sas du Garvey était rapiécé et piqueté de rouille, décoré d'un lion de Sion, gravé au laser. Celui du Aniwa était gris-crème, lisse et immaculé. Malcolm inséra sa main gantée dans un renfoncement étroit. Kez vit remuer ses doigts. Des diodes rouges s'allumèrent dans le renfoncement, égrenant un compte à rebours à partir de 50. Malcolm retira sa main. Kez, un gant appuyé contre le panneau, perçut la vibration du mécanisme de verrouillage jusqu'à travers son scaphandre et ses os. Le segment circulaire aigri de la porte se mit à coulisser dans la coque du Aniwa. Malcolm s'agrippa au renfoncement d'une main et Kez fit de même de l'autre côté. Le sas les aspira. Le Aniwa était un produit des chantiers Dornier Fujitsu, doté d'un aménagement intérieur inspiré par une conception similaire à celle ayant produit la Mercedes qui les avait conduits à travers Istanbul. L'étroite baie d'accès centrale avait ses cloisons plaquées en imitation ébène et le sol recouvert de carrelage italien gris. Kez se faisait l'impression d'un intrus pénétrant les thermes privés de quelques nababs en passant par la douche. Le yacht, assemblé en orbite, n'était absolument pas conçu pour une rentrée dans l'atmosphère. Ses lignes lisses, sa taille de guêpe relevaient du pur stylisme et tous les détails de l'aménagement intérieur avaient été étudiés pour renforcer cette impression générale de vitesse. Malcolm ôta son vieux casque fatigué et Kez l'imita. Ils restèrent là dans le sas, respirant un air qui sentait vaguement le pain, avec au-dessous une vague odeur inquiétante d'isolant brûlé. Malcolm renifla. « Problème ici, Mac. Dans un vaisseau, quand tu sens ça ?» Une porte capitonnée, d'ultra-sky gris sombre, s'ouvrit en coulissant en douceur. Malcolm prit appel sur le mur d'ébène et se glissa prestement par l'étroite ouverture en faisant pivoter ses larges épaules au tout dernier moment. Kez le suivit tant bien que mal en s'agrippant des deux mains à une main courante capitonnée. « Le pont !» dit Malcolm, en indiquant un corridor aux parois lisses peintes en crème, par là. Et il s'y propulsa sans effort, d'un nouvel appel du pied. Venant de quelque part devant, Kez perçut le cliquetis familier d'une imprimante en train de cracher une copie d'écran. Le bruit s'amplifia comme il franchissait derrière Malcolm une autre porte, pour se retrouver dans une masse ondulante de papier emmêlé. Kez saisit un bout de l'accordéon pour y jeter un œil. 000000. Défaillance du système ? Le sionite fit passer un doigt ganté sur les colonnes de zéro. Non, dit Kez, tout en rattrapant son casque qui partait à la dérive. Le trèplat à Dick Armitage a effacé le Osaka qu'il avait ici. À l'odeur, c'est à croire qu'il l'a effacé au laser, sais-tu ? Le sionite appuya du pied contre la cage blanche d'un appareil de gymnastique suisse et se lança, au travers du dédale flottant de paperasse, l'écartant de son visage à grands moulinets de bras. « Kez, Mac !» L'homme était petit, japonais, la gorge plaquée au dossier de l'étroit siège articulé par une longueur de mince filin d'acier sans doute. Le fil était invisible à l'endroit où il s'incrustait dans la mousse noire du repose-tête, et il s'était enfoncé tout aussi profondément dans son larynx. Une unique sphère de sang noirci s'était figée là, comme quelque étrange pierre précieuse, perle noire à reflets rouges. Kaise vit les grossières poignées de bois qui flottaient à chaque extrémité du garrot, telles deux sections usées de manches à balai. « Me demande bien depuis combien de temps il avait ça sur lui ?» dit Kaise, qui se souvenait du pèlerinage de Corto après-guerre. « Il s'est piloté un vaisseau, le patron, Kaise ?»« Peut-être. Il était dans les forces spéciales. »« Ben, ce petit Jap, il pilotait pas. Je doute d'en être capable moi-même. C'est un modèle tout récent. Alors trouve-nous la passerelle. » Maelkoum fronça les sourcils, boula en arrière, prit un appel du pied. Kaise le suivit dans un espace plus vaste, une sorte de salon, froissant et déchirant les rubans d'imprimantes qui l'empêtraient. Il y avait là d'autres chaises articulées, quelque chose qui ressemblait à un bar et le Osaka. L'imprimante, qui continuait de cracher sa mince langue de papier, était une unité compacte intégrée, étroite fente dans un panneau de plaquage verni. Kaise se hissa par-dessus le cercle de siège et l'atteignit, enfonçant un bouton blanc sur la gauche de la fente. Le cliquetis s'arrêta. Il se tourna et regarda le Osaka. La façade avait été perforée, au moins une douzaine d'impacts. Les trous étaient petits, circulaires, aux bords noircis. De minuscules sphères d'alliage brillants orbitaient autour de l'ordinateur mort. « T'avais vu juste ?» dit-il à Maelkoum. « La passerelle est verrouillée, Mac, » lança Maelkoum depuis l'autre bout du salon. La lumière diminua, reprit, décrut de nouveau. Kaise déchira le papier de la fente. Encore des zéros. Muet d'hiver. Il contempla autour de lui le salon beige et brun, l'espace griffonné de courbes errantes de papier. C'est toi qui joues avec les lumières, muet d'hiver. Près de la tête de Maelkoum, une cloison coulissa pour révéler un petit moniteur. Maelkoum sursauta, inquiet. Essuya la sueur de son front contre le tampon de mousse au dos de sa main gantée, puis pivota pour étudier l'écran. « C'est lire le japonais, Mac ?» Kaise pouvait entrevoir des signes défiler sur l'écran. « Non, » répondit-il. « La passerelle donne sur le sas de secours, la chaloupe de sauvetage. On dirait un compte à rebours. Boucle ton scaf !» Il revissa son casque et claqua les verrous. « Quoi ?» « Il décolle ? Merde !» Il se propulsa d'un coup de pied au travers de l'amas de papier. « Faut qu'on ouvre cette porte, gars !» Mais Maelkoum ne pouvait que frapper le coin de son casque. Kaise pouvait voir bouger ses lèvres derrière le lexan. Il vit l'arc d'un filet de sueur jaillir du bandeau de coton pourpre à rayures arc-en-ciel que portait le sionite pour maintenir ses tresses. Maelkoum saisit le casque de Kaise et le lui arrima en douceur, refermant les verrous de ses mains gantées. Sur le côté gauche de sa visière, des microdiodes de contrôle s'allumèrent dès que furent établies les connexions de la bride du casque. « Moi, pas pigé le japonais, » dit Maelkoum, par la radio de son scaphandre. « Mais le compte à rebours déconne. » Il tapa du doigt sur l'écran une ligne bien précise. « Joint non intact, module de la passerelle. Lancement avec sas ouvert. » « Armitage !» Kaise voulut tambouriner sur la porte. Les lois physiques de l'impesanteur l'envoyèrent bouler en arrière vers l'imprimante. « Corto, faites pas ça, faut qu'on cause, faut qu'on... »« Kaise, je vous reçois, Kaise !» La voix ressemblait à peine à celle d'Armitage à présent. Elle trahissait un calme étrange. Kaise cessa de se débattre. Son casque heurta le mur opposé. « Je suis désolé, Kaise. » Mais il doit en être ainsi. L'un de nous deux doit sortir. L'un de nous doit témoigner. Si on dégringole tous, c'est la fin. Je leur dirai, Kaise. Je leur raconterai tout. Sur Girling et les autres, et j'y arriverai, Kaise. Je sais que j'y arriverai. À Helsinki. Il y eut un brusque silence. Kaise le sentit emplir son casque comme quelques gaz rares. Mais c'est si dur, Kaise. Si foutrement dur. Je suis aveugle.
Corto, arrêtez, attendez. Vous êtes aveugle, bon sang, mon vieux, vous ne pouvez pas voler. Vous allez vous planter dans les arbres, bordel. Et ils font tout pour vous avoir, Corto. Je le jure devant Dieu. Et ils ont laissé votre écoutille ouverte. Vous allez mourir, et vous n'arriverez jamais à leur raconter. Et il faut que je connaisse l'enzyme. Donnez-moi le nom de l'enzyme. L'enzyme, mec. Il hurlait maintenant. La voix rendue perçante par l'hystérie. Le Larsen transperçait les oreillettes de son casque. « Rappelez-vous votre instruction, Kez. C'est tout ce qu'on puisse faire. » Et puis le casque s'emplit d'un bredouillis confus, d'un rugissement de parasites, d'un déferlement d'harmoniques, dévalant du fond des ans depuis point hurlant. Des fragments de russe, puis une voix étrangère, un accent du Midwest très jeune. « Nous sommes posés, je répète. Omaha Thunder est posé. Nous... » « Muet d'hiver !» hurla Kez. « Me fais pas ça !» Des larmes jaillirent de ses cils, rebondirent en tremblantant sur sa visière en gouttelettes de cristal. Puis, le Haniwa frémit, une seule fois, vibra comme si quelque énorme masse molle avait heurté sa coque. Kez imagina la chaloupe se dégageant d'une secousse, libérée par les boulons explosifs. Et en moins d'une seconde, un ouragan d'air aspirant ce fou de colonel Corto hors de sa couchette, aspirant le compte rendu par muet d'hiver des ultimes instants de l'opération point hurlant. « Là, je suis fait, Mac. » Malcolm regarda le moniteur. « Le sas est ouvert. Le muet a dû outrepasser la sécurité d'éjection. » Kez voulut essuyer ses larmes de rage. Ses doigts claquèrent contre le Lexan. « L'yacht, il reste hermétiquement fermé. » Mais le patron avait le contrôle des grappins depuis le pont. Le Marcus Garvey est toujours coincé. Mais Kez contemplait la chute infinie d'Armitage autour de zones libres, à travers un vide plus froid que les steppes. Pour quelques raisons, il l'imaginait dans son Burberry sombre, les plis épais du trench coat étalés autour de lui, comme les ailes de quelque immense chauve-souris.